Chapitre 8. La lumière du chandelier. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à Aaron et dis-lui, quand tu allumeras les lampes, les sept lampes éclaireront sur le devant, vis-à-vis du chandelier. » Et Aaron fit ainsi, il alluma les lampes pour éclairer sur le devant, vis-à-vis du chandelier, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et le chandelier était fait ainsi, il était d'or battu. Depuis son pied jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Selon la forme que l'Éternel avait montrée à Moïse, ainsi il avait fait le chandelier. Versets 1 à 4. Dans ce paragraphe, deux choses réclament notre attention. D'abord la place qu'occupe ici le chandelier d'or, et ensuite l'instruction qu'il présente. La place de cet enseignement. Il est bien remarquable que le chandelier soit le seul objet du tabernacle qui soit mentionné ici. Il ne nous est rien dit de l'autel d'or, ni de la table d'or. Le chandelier seul est devant nous, non pas enveloppé de ses vêtements de voyage, comme au chapitre 4, mais resplendissant et découvert. Il est mentionné entre les offrandes des princes et la consécration des Lévites et répand sa lumière conformément au commandement de l'Éternel. On ne peut pas se dispenser de la lumière dans le désert. C'est pourquoi le chandelier d'or doit être dépouillé de sa couverture et peut briller en témoignage pour Dieu. Et qu'on se souvienne toujours que ce témoignage est le grand but vers lequel tout se dirige, soit qu'il s'agisse de l'offrande de nos biens, comme dans le cas des princes, soit qu'il s'agisse de la consécration de nos personnes, comme dans le cas des Lévites. Ce n'est qu'à la lumière du sanctuaire que l'on peut voir la valeur réelle de chaque chose et de chacun. L'ordre moral de toute cette partie de notre livre est très beau. Ayant lu dans le chapitre 7 tout ce qui est dit de la libéralité des princes, nous pourrions supposer que la première chose qui devrait suivre serait la consécration des Lévites, pour montrer dans un rapport immédiat les offrandes et la consécration. Mais non, l'Esprit de Dieu fait intervenir entre elles la lumière du sanctuaire, afin que nous puissions discerner le véritable objet de toute libéralité et de tout service dans le désert. N'y a-t-il pas en ceci une belle convenance morale? Pourquoi n'est-il pas parlé ici de l'autel d'or avec son nuage d'encens? Pourquoi pas de la table pure avec ses 12 pains? Parce que ni l'un ni l'autre de ces objets n'aurait de connexion morale avec ce qui précède ou ce qui suit. Mais le chandelier d'or est en rapport avec tous les deux, parce qu'il nous apprend que toute libéralité et tout service doivent être envisagés à la lumière du sanctuaire, afin qu'on puisse en constater la réelle valeur. Une lumière qui rejaillit sur le chandelier lui-même. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à Aaron et dis-lui, quand tu allumeras les sept lampes éclaireront sur le devant vis-à-vis du chandelier. » Versets 1 et 2. Ces sept lampes représentent en type la lumière de l'Esprit en témoignage. Elles étaient unies à la tige battue du chandelier, laquelle figure Christ qui, dans sa personne et dans son œuvre, est le fondement de l'œuvre de l'Esprit dans l'Église. Tout dépend de Christ. Chaque rayon de lumière dans l'Église, dans le croyant, ou plus tard dans Israël, émane de Christ. Mais ce n'est pas tout ce que nous apprend ce type. Les sept lampes éclaireront sur le devant vis-à-vis du chandelier. Cela porte notre attention sur les paroles de notre Seigneur lorsqu'il nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, verset 16. En quelque lieu que resplendisse la vraie lumière de l'Esprit, elle rendra toujours témoignage à Christ. Elle n'appellera pas l'attention sur elle-même, mais sur lui. Et c'est là le moyen de glorifier Dieu. C'est là une grande vérité pratique pour tous les chrétiens. Le plus beau témoignage qui puisse être donné d'une œuvre vraiment spirituelle, c'est qu'elle tend directement à exalter Christ. Si l'on cherche à attirer l'attention sur l'œuvre ou sur l'ouvrier, la lumière s'affaiblit. C'était la fonction d'Aaron d'allumer les lampes et de les arranger. En d'autres termes, la lumière que, comme chrétiens, nous sommes responsables de faire luire est non seulement fondée sur Christ, mais elle est maintenue par lui d'heure en heure, durant toute la nuit. Hors de lui, nous ne pouvons rien faire. La tige d'or soutenait les lampes, la main du sacrificateur les alimentait d'huile et utiliser les mouchettes. Tout est en Christ, de Christ et par Christ. En plus, tout est à Christ. Quel que soit le lieu où la lumière de l'Esprit a brillé dans ce monde, son but a toujours été d'exalter le nom de Jésus. Quoi que ce soit qui ait été opéré par le Saint-Esprit, tout a eu pour objet la gloire du Sauveur. Et nous pouvons hardiment dire que tout ce qui n'a pas ce but n'est pas du Saint-Esprit. Il peut y avoir une immense somme de travaux accomplis, une grande masse de résultats apparents, une quantité de choses qui sont de nature à attirer l'attention de l'homme et à faire éclater ses applaudissements, sans qu'il y ait là un seul rayon de lumière émanant du chandelier d'or. Et pourquoi ? Parce que l'attention est dirigée sur l'œuvre et sur ceux qui s'en occupent. L'homme, ses actes et ses paroles sont exaltés au lieu de Christ. La lumière n'a pas été produite par l'huile que fournit la main du grand souverain sacrificateur, et par conséquent, c'est une fausse lumière. C'est une lumière qui ne luit pas sur le chandelier, mais sur le nom ou les actes de l'homme. Tout ceci réclame la plus sérieuse attention. Il est toujours extrêmement dangereux de voir un homme ou son œuvre mis en relief. On peut être assuré que Satan atteint son but lorsque l'attention se porte sur quelque autre personne que sur le Seigneur Jésus lui-même. Une œuvre peut être commencée dans la plus grande simplicité possible, mais par manque de vigilance et de spiritualité de la part de l'ouvrier, l'attention générale peut être attirée sur lui-même ou sur les résultats de son œuvre et il peut tomber dans le piège du diable. Le but incessant que poursuit Satan, c'est de déshonorer le Seigneur Jésus. Et s'il peut le faire par le moyen d'un service chrétien, il a remporté une grande victoire. Il n'a aucune objection contre l'œuvre en elle-même s'il peut la séparer du nom de Jésus. S'il le peut, il se mêlera à l'œuvre. Il se présentera au milieu des serviteurs de Christ. Mais son but est toujours le même, savoir de déshonorer le Seigneur. Il permit à une servante dont il avait fait sa proie de rendre témoignage à Paul et à Silas et de dire « Ces hommes sont les esclaves du Dieu Très-Haut qui vous annonce la voie du salut. » Acte 16, verset 17. Mais en le faisant, il avait uniquement en vue de séduire ses ouvriers et de détruire leur œuvre. Il fut défait, cependant, parce que la lumière qui émanait de Paul et de Silas était la pure lumière du sanctuaire, et elle ne resplendit que sur le Christ. Ils ne cherchaient pas à se faire un nom. Et comme c'était à eux et non à leur maître que la servante rendait un témoignage, ils le refusèrent. Ils préférèrent souffrir pour l'amour de leur maître que d'être exaltés à ses dépens. C'est un bel exemple pour tous les ouvriers du Seigneur. Et si nous nous reportons au chapitre 3 des Actes, nous en trouverons un autre très frappant. La lumière du sanctuaire y éclate dans la guérison du boiteux, et quand l'attention qu'il n'avait pas recherchée est attirée sur les ouvriers, nous voyons Pierre et Jean se retirer tout de suite derrière leur glorieux maître et lui attribuer toute la gloire. Et comme ils tenaient par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique appelé de Salomon. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci ? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété ? Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. » Versets 11 à 13. Ici, nous avons véritablement les sept lampes projetant leur lumière sur le chandelier lui-même. C'est le déploiement parfait de la lumière de l'Esprit rendant témoignage au nom de Jésus. « Pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous ?» disent ces fidèles porteurs de la lumière de l'Esprit. C'était sans doute une occasion dont les apôtres auraient pu profiter, s'ils l'avaient voulu, pour entourer leur propre nom d'une auréole de gloire. Ils auraient pu attirer sur eux le respect et la vénération de milliers de personnes dans l'admiration. Mais s'ils l'avaient fait, ils auraient frustré leur maître, falsifié le témoignage et attristé le Saint-Esprit. Mais non, les sept lampes brillaient avec éclat à Jérusalem dans ce moment particulier. Le vrai chandelier était alors au portique de Salomon et non dans le temple. Du moins, les sept lampes étaient là et y faisaient admirablement leur œuvre. Ses serviteurs fidèles ne cherchaient pas la gloire pour eux-mêmes, au contraire, ils déployaient toute leur énergie afin d'éloigner d'eux-mêmes les regards de la foule et de les porter sur celui qui seul en est digne et qui, quoique dans les cieux, travaillait encore par son esprit sur la terre. Retenons dans nos cœurs la grande leçon pratique que nous enseigne le chandelier d'or avec ses 7 lampes. Il y a toujours du danger à ce que l'œuvre et l'ouvrier soient mis en relief plutôt que le maître. Soyons en garde contre ce piège. L'Esprit Saint travaille toujours à exalter le nom de Jésus. Abstenons-nous de tout ce qui s'approche de la glorification de l'homme, du moi, de nos actions, de nos paroles, de nos pensées. Puissions-nous demeurer en Christ et recevoir de lui l'huile pure, de jour en jour et de moment en moment, afin que notre lumière luise, sans que nous y pensions, à la louange de celui en qui nous avons tout et en dehors duquel nous ne pouvons absolument rien faire. Le reste du chapitre 8 contient l'exposé du cérémonial en rapport avec la consécration des Lévites. Nous avons déjà examiné ce sujet en nous occupant des chapitres 3 et 4.